Ouvrons le Saint-Livre, mes frères et sœurs. Ouvrons le Saint-Livre dans 2 Chroniques au chapitre 33. Nous allons lire cette histoire. C'est la suite d'un dimanche dernier où nous avons vu l'importance de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle à la prière et que Dieu regardait à l'humilité. Oui, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. 2 Chroniques chapitre 33, nous allons lire du verset 1er au verset 20. Je me doute que vous avez peut-être déjà lu cette histoire, mais regardez comment elle est belle. Oui, Dieu regarde au cœur. Notre frère Jérôme l'a rappelé plusieurs fois pendant les chants, mais regardez combien c'est vrai. 2 Chroniques, chapitre 33. Je vous encourage à noter tous les textes que je vais vous laisser. Ils vont peut-être vous aider dans les cultes personnels dans la semaine à améliorer votre compréhension de certaines choses. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à Esaïe, à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guion dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, il lui offrit des sacrifices d'actions de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés, et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison et Amon, son fils, régna à sa place. Et vous pouvez dire Amen, mes frères et sœurs, vous pouvez dire Amen. Une autre lecture dans le psaume 130, je vous encourage à reprendre ces lectures, vraiment, à reprendre ces lectures. Dans le psaume 130, un autre prie. C'est un peu le même cas de figure, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais regardez juste l'introduction de ce psaume. Psaume 130, verset 1er. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Voilà ce qui s'est passé. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Vous voyez, il n'y a pas que Manassé. Dans Ésaïe 55, au verset 6, il y a une autre prière, une autre exhortation. C'est un commandement. Là, on n'est plus dans le témoignage et dans l'expérience. On est dans un commandement que Dieu adresse à tous les hommes. À tous les hommes, ce n'est pas adressé aux tribus d'Israël, c'est adressé à tous les hommes. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous allons faire encore deux lectures, la prochaine dans Romains au chapitre 10. Au verset 13, n'oubliez pas que ces textes, Dieu les a voulus. Le Saint-Esprit a voulu que cela soit consigné dans le livre, dans le Saint-Livre, parce que nous en avions besoin. Nous avons besoin d'entendre certaines choses. Est-ce que vous le savez? Eh bien, ce matin, il se pourrait que certains aient besoin d'entendre ce que vous allez entendre. En tous les cas, ce qui est dans la parole, Dieu veut que vous l'entendiez. Romains chapitre 10, verset 13. Regardez cette parole merveilleuse. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Vous entendez? Vous le croyez? Dieu l'a voulu. C'est sérieux. Dieu a voulu que ça soit consigné dans le livre. Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On va prendre un exemple très pratique. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, le mieux c'est de prendre un exemple pratique pour expliquer ce que nous venons de lire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 35, nous avons le témoignage d'un homme qui a vécu quelque chose, que quelqu'un peut vivre ce matin, car nous ne sommes pas là pour un culte orthodoxe, traditionnel. Nous sommes là pour être touchés par la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché, retouché, guéri, libéré. Mes frères et sœurs, on n'est pas là pour le protocole, on est là pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Luc chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Oui, les magistrats, des gens normalement éduqués. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu ?» C'est un criminel qui parle. C'est un criminel qui est jugé pour meurtre. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Je ne sais pas comment il l'a dit, avec quelle teneur il l'a dit, mais il l'a dit. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « C'est hors de question. » Ah pardon. La mère, vous allez voir tout à l'heure. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Et on aurait pu prendre des textes « En veux-tu, en voilà » pour expliquer ce verset de Romains 10 qu'on a lu, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je crois que lorsque nous nous retrouvons à deux ou trois ou plusieurs dans la parole de Dieu, le Seigneur est près de nous. Il est prêt. Vous ne savez pas dans quelques semaines où vous serez. Peut-être que vous serez très loin de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont été très près du Seigneur dans des moments comme celui-ci, qui ont pleuré même en écoutant la prédication, et on a appris, trois semaines, un mois après, qu'ils étaient dans des conditions déplorables parce qu'ils n'ont pas saisi ce moment où, lorsque Dieu était près d'eux, ils n'ont pas fait cette prière pour invoquer le Seigneur. C'est sérieux. Nous sommes sous le regard de Dieu, nous sommes dans un moment de louange, un moment d'adoration, mais si Dieu dit « Invoquez-moi tandis que je passe, invoquez-moi tandis que je suis prêt, tandis qu'il est prêt », c'est un moment à ne pas manquer. Ou alors on est dans l'hypocrisie totale, on est dans la routine, dans le train-train, etc. Mais il y a des moments qu'il ne faut pas manquer. Le brigand, vous l'avez lu, il aurait pu passer à côté, oui ou non? Il aurait pu. L'autre, en tous les cas, là, est passé à côté, complètement à côté. Pourtant, Jésus était là, Jésus était à côté de lui, il était en train de vivre la prédication de la croix, excusez-moi l'expression, mais en direct, il était en train de vivre la même chose, et son cœur était dans une dureté, puisque malgré ce qu'il était en train de vivre, et il savait très bien qu'il allait mourir, il a insulté le Seigneur. Bien sûr que pour nous, ce n'est pas une insulte, mais vous savez, quand on s'amuse avec la parole de Dieu, c'est une insulte. Combien d'hommes et de femmes auraient accusé ce brigand? D'ailleurs, vous avez vu sa prière, souviens-toi de moi. Bien sûr qu'au fil des siècles, cette prière, c'est devenue la prière du pécheur. C'est une prière qui est acceptée, puisqu'elle est là, dans la parole, ça s'est passé lorsque Jésus est mort sur la croix. Mais je suis persuadé qu'il y en a qui devaient écouter, s'il y en a qui ont entendu, en particulier les magistrats, qui écoutaient et qui regardaient, puisqu'il a dit le monde regardait. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette prière? Ça n'a aucun sens. Nous, on regarde aux mots, nous, on regarde vocabulaire. Souviens-toi de moi, comparé aux prières des pharisiens, laissez-moi vous dire que ce n'était pas une prière. Mais Dieu regarde au cœur. Et ce matin, Dieu regarde au cœur. Il regarde dans le plus profond de notre cœur. Il faut bien que nous comprenions, pas seulement ici, dans toute la ville de Toulouse, Dieu regarde au cœur. Il voit s'il y a rangueil, s'il y a purpan, il voit si dans un HLM, dans une maison de luxe, etc., un riche, un pauvre, il voit s'il y a quelqu'un qui est vrai avec lui. Ouais. Vous avez vu ce brigand? Quand même, c'est bizarre tout d'un coup. Parce qu'il nous est dit dans l'évangile de Marc que tous les deux l'injuriaient. Tous les deux, c'est écrit, vous l'avez lu. Tous les deux l'insultaient. Au départ, tous les deux l'insultaient. Et là, tout d'un coup, alors que vous avez vu les pharisiens, les magistrats, les soldats, le témoignage de Jésus, pourquoi ils l'ont crucifié? Ils l'ont crucifié, oui, il y en a, il a dit qu'il s'était fait fils de Dieu, il a dit à quelqu'un même, tes péchés sont pardonnés, mais pour qui il se prend? Ils n'ont pas compris que c'était le fils de Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant? Vous le croyez ce matin? Que Jésus est Dieu? Est-ce que vous le croyez? Vous avez vu ce que les gens ont fait des paroles de Jésus? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il se prend pour le Fils de Dieu, etc. Combien l'ont rejeté? Combien l'ont méprisé? Combien aujourd'hui? Vous savez, c'est une des prophéties où il nous est dit que ceux qui seront pris par l'Antéchrist, confesseront que Jésus n'est pas venu en chair. Et croyez-moi, ça circule même dans nos assemblées. J'ai entendu dire qu'un pasteur prêchait que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Alors, pour vous dire combien c'est grave. Nous avons la prière de ce brigand. Nous n'avons pas la prière de Manassé. Elle est dans le livre de Osaïe. Ce matin, quand on chantait ces beaux cantiques, quand on chantait le dernier « Entends mon cœur », je me suis dit, mais il faut que j'achète ce livre de Osaïe. puisque c'est dans la liste. J'y pensais. Je veux savoir quelle est la prière. Je vais l'acheter. Quelle est la prière qu'a fait Manassé? Ça ne vous intéresse pas de savoir la prière qu'il a? Moi, ce matin, ça m'est venu à l'idée pendant que je chantais. Parce que Dieu regarde au cœur. Mais en plus, ce livre, on doit pouvoir le trouver. Mes frères et sœurs, Dieu, il regarde au cœur. Et ce brigand, qu'est-ce qui s'est passé? En tous les cas, ça n'a pas pris longtemps. Est-ce que vous aimeriez qu'il se passe quelque chose dans votre cœur ce matin? Mais ce respect profond, vous avez vu, alors que tout le monde l'accusait, les gens regardaient, enfin, on va pas tourner là-dessus, mais cet homme a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Mes frères et sœurs, la première des choses qui devrait se produire dans le cœur d'un homme lorsqu'il s'approche de Dieu, c'est de comprendre que s'il y a un problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Celui-ci n'a rien fait de mal. D'ailleurs, je vais le lire parce que je l'ai à cœur. Dans la prière de Moïse, lisez-le avec moi. J'y tiens parce que beaucoup de croyants sont en train de se faire piéger par rapport à l'ambiance, etc. Regardez dans le Deutéronome au chapitre 32. C'est le cantique de Moïse. C'est le cantique de Moïse. Deutéronome 32, verset 4, c'est important ce que je vais vous dire. Parce que ça doit nous amener à comprendre que s'il y a un problème, c'est toujours du côté de l'homme. C'est pas Dieu qui sait pas ce qu'il fait. Deutéronome 32, verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Vous pourrez lire ce texte et vous comprendrez avec beaucoup de sérieux que s'il y a un problème, ce n'est jamais du côté de Dieu. S'il y a un problème, c'est toujours du côté des hommes. Et vous savez, on l'entend, des fois, oui, mais c'est Dieu, je ne comprends pas, pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? Attention, ce n'est pas comme ça que nous verrons nos prières être exaucées. Car c'est la suite de dimanche dernier, n'oubliez pas, à savoir que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et quand on voit un homme comme Manassé, un roi, quand on voit la prière de ce brigand, un brigand, et j'ai pris ces deux exemples volontairement pour que nous comprenions bien que Dieu sait ce qu'il dit. Et si Dieu a voulu nous dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, laissez-moi vous dire que le jour du jugement, il n'y a pas quelqu'un qui va se pointer et dire dans le ciel, bon c'est une image bien sûr, mais moi je t'ai invoqué, ça n'a pas marché. Vous croyez que ça va arriver ça? Que quelqu'un va s'autoriser à dire, bien sûr ça ne va pas se passer, mais c'est pour que vous compreniez, personne dans l'univers, personne sur la terre pourra dire, moi j'ai invoqué Dieu, ça n'a pas marché. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais vous avez vu le brigand impie, lui il a parlé à Jésus. Il a parlé. Il avait Jésus à côté de lui, je ne sais pas si Jésus l'a regardé, je ne sais pas s'ils se sont regardés, s'ils étaient dans un état physique où ils pouvaient tourner la tête, j'en sais rien. Mais il a parlé. Beaucoup de gens parlent à Dieu. Ce n'est pas le problème de prier ou de parler à Dieu. C'est le problème d'être humble. D'être honnête. Parce que si on est tout le temps en train de chercher des excuses, si on est tout le temps en train de chercher des excuses, c'est pas ma faute, c'est la faute à lui, c'est la faute à elle, c'est la faute au diable, c'est la faute... Oui, si j'en suis là, bien sûr, je suis à deux doigts de divorcer, mais c'est la faute à ma femme, il n'y en a rien... Si vous êtes dans l'accusation, mais vous n'avez pas besoin de pardon de toute façon. Si c'est les autres qui ont tort, vous n'avez pas besoin de demander pardon. Et ça ne va pas aller loin. C'est beaucoup plus sérieux. Il y a une attitude de cœur qui fait que Dieu peut se laisser fléchir. Vous l'avez lu avec moi? Dieu se laissant fléchir. Moi, je vous assure que la première fois que j'ai lu ça, ça m'a espanté, comme on dit chez nous. J'ai dit, c'est pas possible. Un type pareil, un type qui a péché et qui a fait pécher tout le pays. Parce que c'est grave le péché, c'est grave parce que ça a mené à la mort de Jésus. Mais le problème, c'est que quand nos péchés font pécher les autres, laissez-moi vous dire que c'est pas bon. Et que moi, ne connaissant pas Manassé, je l'aurais laissé en prison jusqu'à ce qu'il meure. Parce que j'aurais pas pris le risque de le réhabiliter, vu la méchanceté de cet homme, la perversité de cet homme. Mais il s'est humilié. Et j'y pense, oui, j'achèterai ce livre, je veux savoir ce qu'il a dit à Dieu. En tous les cas, il s'est profondément humilié. Comment ça s'est passé? On ne sait pas comment, tout d'un coup, vous avez vu cet homme, ce qu'il a fait? Vous l'avez lu avec moi, et Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé, par les prophètes, par la parole. Mais ce matin, c'est la même chose, c'est peut-être moins bien fait, mais c'est quand même la même chose. Dieu vous dit que si vous invoquez son nom, il agira, même si vous êtes dans l'abîme. Mais c'est sérieux. Si vous êtes dans l'accusation, si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, parce que Manassé aurait pu dire, ouais, mais tu sais, voilà, j'en suis arrivé là, c'est la faute à mes conseillers, j'avais de mauvais conseillers. Et c'est vrai qu'il y a des rois qui ont parfois été très mal conseillés. Actuellement, je pense qu'on en a un qui est mal conseillé. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mais il ne faut pas être dans l'accusation. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'un jour il pleurait dans sa prison? Est-ce qu'un garde l'a entendu? Je ne sais pas. Moi, je me suis fait tous les films qu'on peut se faire. Est-ce qu'il pleurait? Est-ce que ça a duré des semaines, des mois, des années? Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'un garde l'a entendu? Ça est rapporté aux officiers, etc. Pour qu'il ressorte de captivité. Vous avez vu comment Dieu a été obligé de l'amener dans la détresse pour qu'il se mette à prier. C'est quand même dommage. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que c'est pareil un peu pour nous aussi. Dieu est parfois obligé de nous maintenir dans des situations pénibles pour qu'on se mette à écouter sa parole. Combien de gens écoutent, peut-être que ce matin vous entendez, Dieu est prêt. Dieu est prêt parce que nous sommes là, sur la parole. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que dans 3 semaines, vous aurez eu une adversité, une contrariété, une épreuve, un contretemps, et que vous serez très loin de Dieu, et que Dieu ne sera pas près de vous, et que vous serez très loin de Dieu, et que vous serez passé à côté. Le brigand, je pense qu'il était temps qu'il fasse une prière sincère. Il savait qu'il allait mourir, et Dieu l'a éclairé. Il s'est passé quelque chose. A-t-il prié la veille, sachant qu'il allait mourir? A-t-il été touché par... Il y a de fortes chances qu'il ait été touché par les paroles de Jésus sur le bois de la croix. La prédication de la croix, c'est ce qui sauvera les hommes. On l'a chanté. Dieu sauve les perdus. Vous le croyez, ce qu'on a chanté tout à l'heure? C'est la prédication de la croix. C'est pas autre chose dont nous avons absolument besoin. En tous les cas, le brigand s'est humilié, profondément humilié. Celui-ci n'a rien fait de mal. Nous, on mérite. Oui, nous, on mérite. Ce que nos crimes ont fait. Nous, on mérite cette mort minable. Mais lui n'a rien fait de mal. Lui, il meurt pour nous. Jésus est en train de payer pour eux. Jésus est en train de payer pour vous et moi. Vous le savez? C'est pour ça que tout à l'heure, on ne peut pas s'autoriser à prendre la Sainte Cène à la légère. Parce que Jésus a institué la scène pour que nous vivions certaines choses. Est-ce que tout à l'heure le Seigneur peut nous guérir? Est-ce que Dieu peut guérir un de ses enfants? Vous savez, l'autre jour, on a été prié avec un frère. Il m'a appelé. Il m'a dit, Monsieur Gros, il vous faut aller prier pour la fille. Elle a 18 ans, elle est en train de mourir. Ils l'ont ramenée de l'hôpital, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. C'est un pécheur, un gars qui ne connaît pas Dieu. On y a été. Quand j'ai vu la fille, elle a les lèvres toutes blanches. Vous savez, quand les gens ont les lèvres blanches, c'est pas bon signe. Et cette fille, elle était là, elle n'a pas pu répondre. Ils l'ont amenée, c'était la fin. On a prié. J'aurais juste dit, est-ce que vous avez été voir un guérisseur? Ils m'ont dit, oui, on a été voir un guérisseur, on ne sait plus quoi faire. Ils pleuraient, ils étaient là complètement abattus. Eh bien, on va demander pardon. Je sentais bien que ce n'était pas en état de le faire. Ils étaient complètement abattu. Lui s'est assis par terre. Elle était là, assise. Il savait qu'ils étaient perdus. Tu te rappelles, Michael? On a prié. Et lundi, ils m'ont appelé. Enfin, Michael m'a appelé. Il dit, Monsieur Hugo, la petite, elle est repartie à l'école. Dieu a fait ça pour des inconvertis. Il peut pas bénir ce matin un de ses enfants? Sérieusement. Il y a un verset qui me vient à l'esprit dans un psaume. Quand il est dit, Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Mais vous le croyez, mes frères et sœurs? Bien sûr que si c'est des prières, Jésus a été très sévère avec les hypocrites, les pharisiens qui faisaient des prières parce que, voilà, parce que nous, on, comme disait Jérôme, c'était très bien expliqué. Voilà, on peut faire des prières, toutes académiques, toutes orthodoxes, c'est bien fait. Oh, qu'est-ce qu'il prie bien? Mais ça ne veut rien dire. Vous croyez que Dieu il va bénir ceux qui ont prié à haute voix? Ceux qui ne prient pas à haute voix, ils sont dans la deuxième catégorie, et ils sont moins bien. Et ceux qui ne prient pas du tout, ils sont encore moins bien. Il n'y a pas de meilleur dans l'Église. La religion du mérite, c'est diabolique. Ça n'existe pas. La grâce de Dieu, ça existe. La Bible dit, c'est dans Michée, que le meilleur parmi nous, vous connaissez la suite? Le meilleur, s'il y en avait un. Le meilleur parmi nous, il est comme une ronce. Et le plus droit, comme un buisson d'épines. Bon, ça nous met tous d'équerre. Mais c'est bien, parce que je ne pense pas que le brigand ou le roi de Juda comptait sur ses œuvres. Ils n'avaient rien fait, tous les deux, ils n'avaient fait que le mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que vous me suivez? Ils n'avaient fait que le mal. Et quand le brigand a prié, souviens-toi de moi, je suis sûr, j'y étais pas, je vous doutez bien que j'y étais pas. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dit, mais comment il prie le pauvre type? Parce qu'ils n'ont fait que se moquer. S'ils se moquaient de Jésus, ils ont dû se moquer de la prière de ce pauvre type qui, c'était pas une prière. Souviens-toi de moi, tout ça, c'est pas une prière. Enfin, dans leur tête à eux, c'est pas une prière. Mais dans le cœur de cet homme, c'était sérieux. Je ne sais pas quelle est la prière que vous faites avec les mots que vous utilisez, si vous priez en français, en calédonien, parce que vous venez de la Calédonie. Je ne sais pas dans quelle langue vous priez. Mais ça ne veut rien dire, le vocabulaire. C'est le cœur que Dieu regarde. Et cet homme, vous relirez 2 Chroniques 33, il ne pouvait pas faire pire. Il a même livré ses enfants par le feu. Ses fils. C'était l'abomination des Cananéens. Vous savez, qui offraient ses enfants à Moloch. Vous savez, ces idoles, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu dans des atlas, c'était des gros taureaux, creux à l'intérieur. Il y avait des grands bras là, au niveau de la gueule ouverte du taureau. Je vous résume, c'est à peu près ça. Et on mettait les enfants, à partir de quelques mois, ou jusqu'à 4 ans, on les mettait sur les bras du taureau. Il y avait le feu qui brûlait dans l'intérieur du ventre de ce taureau. Et au bout d'un moment, quand le feu était bien cramé, eh bien, il y avait des bras articulés qui envoyaient l'enfant dans le ventre du taureau. Et tout ça, c'était pour... Et on mettait ça dans des jarres, après, dans les fondations du terrain. Et pour bénir la maison, c'était la bénédiction des Cananéens. C'est diabolique. Eh bien, c'est un croyant. Un roi qui devait savoir le Deutéronome par cœur. Les rois devaient savoir la parole. Et le problème, c'est que cet homme n'a fait qu'à sa tête, parce que les rois, ils font qu'à leur tête, mais je ne crois pas qu'il n'y a pas que les rois qui font qu'à leur tête. Vous rappelez Belshazzar? Je voudrais multiplier les exemples, je ne le ferai pas. Vous rappelez Belshazzar? Qui, monsieur... Parce que les rois, ils s'imaginent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais j'ai peur que beaucoup de Français pensent aussi la même chose. Et Belshazzar, il s'est amusé, il a fait un repas, il y avait beaucoup de monde, alors il avait un peu bu, et il n'a pas trouvé mieux que de faire venir les vases du temple qui avaient été volés dans la maison de l'Éternel. Et voilà, il a dit, vous voyez, les choses de Dieu, les choses de Dieu. Et ils ont bu. Et à un moment donné, vous savez, le jugement viendra. À force de se moquer de Dieu comme on se moque, laissez-moi vous dire que le jugement viendra. Je ne vais pas revenir sur ça, j'en ai parlé il y a 15 jours. Et à ce moment donné, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, la fête, elle va se terminer, la fête, hein, bientôt. Une main est apparue et écrit, vous connaissez, pesé, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Ils ont fait, il a paniqué, mais nature, il a fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'expliquer, personne ne peut. Mais puis sa mère lui dit, mais si, tu ne sais pas qu'il y a Daniel, il ne savait même pas qu'il y avait Daniel, le prophète de Daniel à 300 mètres de chez lui. Ils l'ont fait venir et Daniel lui a dit, mais Belshazzar, tu savais ces choses. Et tu n'as pas humilier ton cœur. Mais nous aussi, on sait. On le sait, ce qu'il faut faire. Vous le croyez à ce verset de grâce, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je ne sais pas où vous êtes, dans quel abîme vous êtes. On a lu dans le psaume 130, ce psalmiste, « Je suis dans l'abîme. » Je ne sais pas dans quel abîme. Est-ce que c'est un abîme moral? Est-ce que c'est un abîme psychique, intellectuel, spirituel? Je ne sais pas, on peut se trouver dans des épreuves terribles, oui ou non? Mais Dieu sait dans quelle épreuve vous êtes. Mais vous croyez qu'il va vous abandonner? Vous croyez, Dieu aurait pu dire, mais Dieu aurait pu dire à faire redire, à menacer. Non, mais tu plaisantes. Mais t'as vu la sorte de type que t'es? T'as vu ce que t'as fait dans mon royaume? Franchement, il pouvait pas faire pire. Et je pense qu'on ne sait pas tout. Et ce brigand, pareil. Quand il a prié, souviens-toi de moi, Jésus aurait pu lui dire, mais tu plaisantes. Tu as détruit des familles. Tu as détruit ta vie. Et maintenant, tu me pries. Mais tu plaisantes. Vous savez, il y a quelques années, j'étais pasteur à Groyer. Il y avait une sœur, la pauvre, elle ne pouvait pas venir souvent au culte. Son mari l'empêchait de venir. Elle vivait dans des conditions. Un homme minable, mais méchant. J'y étais quelques fois. Il me recevait. C'était, vous savez, quand vous percevez les ténèbres. Et un jour, elle est décédée. Alors, on m'a demandé de faire l'enterrement. Parce qu'elle voulait que ce soit moi qui prêche. Et j'étais dans ce village, il y avait la moitié du village. C'était une brave sœur. Et son mari, il est venu juste à côté de moi. Quand je prêchais, il est venu juste à côté de moi. Alors j'ai prêché. Il a compris sûrement. J'ai prêché. 8 jours après, on m'appelle de l'hôpital. Monsieur Gau, vite, il vous faut venir. Je vais à l'hôpital, j'arrive dans la chambre. Je ne croyais pas que c'était vrai. C'était 8 jours après l'enterrement. Il me dit, Monsieur Gou, est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que Jésus peut me pardonner? Moi, je vous assure, j'ai failli dire non. Ah mais, j'ai dû faire oui comme ça. Je vous assure. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Cet homme, pendant toute sa vie, il a été méchant, mauvais. Et là, il demande la grâce de Dieu. J'ai dit, oui, Dieu peut vous pardonner. J'ai prié. J'ai prié. Et cet homme, il a donné son cœur au Seigneur. Et il est mort. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Si on n'a pas compris que Dieu est un Dieu de grâce, parce que ça, c'est dans Deux Chroniques, c'est pendant la dispensation de la loi. Ce n'est pas dans notre dispensation de la grâce. Si Dieu a fait grâce à cet homme méchant, pervers, odieux, parce qu'il s'est humilié, il s'est profondément humilié. Et c'est ça le problème, c'est que dans les églises aujourd'hui, beaucoup de gens prient, récitent des prières. Vous connaissez la parabole du semeur, voilà, vous connaissez, c'est adressé à tous les hommes, chrétiens, pas chrétiens. Il y a des gens qui ont un cœur dur, il y a des pierres, il y a des épines, et tout ça, ça reste, et ça empêche la grâce de Dieu de descendre. Mais la Bible dit que celui qui porte du fruit, c'est celui qui a un cœur honnête. Un cœur qui est honnête et bon, celui-là, Dieu va le bénir. Ce matin, vous croyez que c'est vrai ce que Paul a dit là? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez, cette nuit, je vous le dis parce que je l'ai vécu, j'ai vécu quelque chose. Cette nuit, j'étais en train de prier. Et il y a un pasteur dans le mouvement qui a perdu son fils de 33 ans en moto, 31 ans. Bien sûr, je prie pour ses parents, je me doute que ça doit être... Et Dieu m'a donné une parole pour eux. Je sais que c'est pour eux. Ce soir, je vais les appeler ou leur envoyer un mail. Et je sais que Dieu va leur parler. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je suis persuadé que quand on cherche Dieu, il se passe quelque chose. Pas quand on récite des prières. Pas quand on récite des heures de prière. Combien tu pries, toi? Combien vous priez, monsieur Puette? Vous priez 20 minutes? Moi, je pas. Oh, c'est pas beaucoup, monsieur Puette. Moi, je prie une heure. Ça vous fait rire? Mais combien pensent que la bénédiction dépend du temps? Dieu va bénir un gars qui prie une heure, et le gars qui prie que 20 minutes, ben, lui, il est en panne. Mes frères et sœurs, Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. On l'a chanté. C'est dans le psaume, je ne sais plus lequel, 85, je crois. Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Mais voilà, la Sainte-Cène, c'est un moment sérieux. Il y a des gens qui viennent à l'église, comme je l'ai déjà dit 100 fois. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils imaginent, parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils prennent la Sainte-Cène, que Dieu est avec eux, que Dieu est de leur côté, qu'ils sont en communion avec Dieu, mais c'est un peu plus sérieux que ça. Alors je ne sais pas les épreuves que Dieu peut permettre. Est-ce que Dieu peut permettre une épreuve dans votre vie? Est-ce que vous acceptez que Dieu puisse permettre une épreuve? Est-ce que vous acceptez? Si ça doit vous amener, nous amener, à prier profondément, vous auriez réhabilité Manassé, vous? Qui dans l'église aurait réhabilité Manassé? Franchement, qui? Personne. Personne. C'est impossible. Quelqu'un de normal n'aurait jamais réhabilité cet homme. Mais Dieu, il regarde au cœur. Dieu, ce matin, il regarde dans votre cœur. Je ne sais pas, je l'ai dit tout à l'heure, combien de temps il a pleuré. Mais il a invoqué Dieu. Il a cru en cet amour. Ben, vous vous rendez compte, le roi, tout d'un coup, enchaîné, là, en train de manger, je ne sais pas quoi, ça devait le changer de régime. Hein. Et Dieu a incliné le cœur des rois de Babylone, pourtant, ce n'était pas d'éteindre à Babylone. Hein. Et Dieu a incliné le cœur de ce mauvais roi de Babylone pour le réhabiliter. Je ne sais pas comment ça s'est passé, j'aimerais savoir. Mais une chose est sûre, Dieu peut incliner le cœur de n'importe qui pour vous amener à faire ce que vous devriez faire. Parce qu'après vous avez vu, et il bâtit, et des murs, et ceci, et il a mis le monde au travail. Après c'est extraordinaire ce que cet homme a fait. Mais c'est peut-être ce que Dieu nous demande. De nous réveiller, parce que Dieu sait, si une fois qu'on est pardonné, on recommence. Parce que Dieu aurait pu dire à ce roi, mon pauvre, tu m'as déjà demandé pardon hier. Ou la semaine dernière, tu m'as déjà demandé pardon, mais qu'est-ce que c'est? Tu as recommencé. Je t'ai parlé, tu n'as pas fait attention. Eh bien, reste dans ta prison. Dieu ne pourrait pas nous dire parfois, mais tu m'as déjà demandé pardon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allez, soyons sérieux. Le Seigneur n'aurait pas pu nous dire plusieurs fois, mais ça fait combien de fois que tu me demandes pardon? Oui ou non? Heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est plein d'amour. Mais il y a l'humilité qui va provoquer la bénédiction. Et cet homme, quand Dieu l'a réhabilité, il n'a pas recommencé dans ses travers. Quand Dieu l'a réhabilité, vous l'avez vu? Si vous y êtes, 2 Chroniques 33, 14. Après cela, c'est sûr que... C'était une grande bénédiction. Dieu le ramène à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Il bâtit. Vous relirez du verset 14 au verset 20. Il bâtit, voyez, un mur. Il mit des chefs militaires. Il fit disparaître les idoles. Il renversa les autels, etc. Il va faire quelque chose. Est-ce que mes frères et sœurs, écoutez bien ça, parce que c'est le cœur en fin de compte de la prédication. Parce que Dieu regarde à votre cœur et au mien, bien sûr. Est-ce que vous êtes capable de dire ce matin, mais c'est une bénédiction, Seigneur, je ferai ce que tu veux que je fasse. C'est pour ça que Dieu a réhabilité Manassé, parce que cet homme, réhabilité, a compris que Dieu était plein d'amour. Dieu lui a parlé, il n'a pas fait gaffe. Mais je m'adresse à vous, chrétiens, mais je m'adresse à vous peut-être qui n'êtes pas encore baptisés. Je vous le dis, invoquez-le. Pas des prières du bout des lèvres, j'ai prié, ça ne sert à rien. Vous allez voir quand vous allez passer devant Dieu si vous allez pouvoir dire ça. À moi, vous pouvez me le dire. À moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai prié, ça ne sert à rien. Mais oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le jour du jugement, vous ne pourrez même pas le dire. Parce que si Dieu a voulu que soit écrit dans la parole que quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé, c'est que c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Et vous pouvez prendre la Bible, vous allez me dire, mais la Bible c'est facile. Mais vous vous souvenez du jour où vous avez invoqué le Seigneur? Moi je me souviens, quand j'avais 22 ans, et que je me suis mis à genoux dans ma chambre, c'était la première fois, j'ai fermé la porte, mais il ne faut pas que quelqu'un rentre. J'ai dit, la première chose que j'ai dit, si mes copains me voyaient, j'ai prié, je n'avais pas le même vocabulaire qu'aujourd'hui, mais Dieu m'a entendu, je le sais. Je peux vous dire que Dieu m'a entendu. Et si ce matin quelqu'un invoque le Seigneur de tout son cœur, parce que Dieu bénit pas que les rois de Juda ou les criminels de Jérusalem, s'il y a un Toulousain qui ce matin, ou quelqu'un ici dans ce lieu, ou quelqu'un qui écoutera cette prédication, se met à genoux, je ne sais rien, en tout cas si vous entrez dans votre chambre et que vous vous enfermiez et que vous invoquiez le Seigneur agira. Demandez à Jonas, lui aussi, les gens qui fuient, il n'y a pas que Jonas qui a fui. Il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de fuir, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous fuyez la volonté de Dieu. Vous dites, oui, mais je prie, mais je viens à l'église. Je ne vous ai pas demandé ça. Dieu vous demande, est-ce que vous n'avez pas le réflexe de toujours fuir? Vous avez vu Jonas? Quand, comme par hasard, il avait un esprit suicidaire, il a dit, mais jetez-moi à l'eau et le problème sera réglé. Et ils l'ont jeté à l'eau. Et Dieu n'a pas pris son agenda, il dit voilà, Jonas 1, bon, on l'oreille, allez, on va prendre son piston, allez, fils, on va prendre son fils. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on marche comme ça. Mais si Dieu a besoin de vous, vous pouvez vous jeter à l'eau. Il va y avoir un moment où ça vaudra la peine de l'invoquer. Vous regardez la prière que Jonas a faite dans le ventre du poisson, lui, il était dans l'abîme. Vous avez vu comment tout d'un coup il se m'a prié, dans la détresse, je me suis souvenu de toi. Bon, ça fait sourire un peu en même temps. Mais quand même, c'est bizarre. Heureusement que Dieu a créé des grands poissons. Heureusement que Dieu a tout créé à l'avance. Vous le croyez? On peut chanter tout dit qu'il est merveilleux. J'espère que la deuxième strophe, vous avez pu la chanter. J'espère que vous pouviez chanter « Je sais qu'il est merveilleux ». Il a fait ça pour un brigand qui ne méritait que la mort. Mais cet homme, il s'est passé quelque chose. Et vous savez, quand on lit les évangiles, je ne sais pas si vous aimez lire les évangiles, vous êtes près de Dieu, non? Cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Il y a beaucoup de gens en enfer qui aimeraient bien revenir 30 secondes sur la terre. 20 secondes, et se mettre à genoux et dire « Jésus, sauve-moi ». Vous ne croyez pas qu'il y en a un enfer qui aimerait avoir 15 secondes de notre temps béni? Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Mais oui, croyez-moi. Tous les gens qui sont en enfer aimeraient avoir 15 secondes pour revenir sur la terre. Et vous vous rappelez dans cet enseignement que Jésus donne, Jésus a dit à cet homme dans les tourments, mais envoie quelqu'un. Si quelqu'un des morts ressuscite, ils croiront. Quelques jours après, ça s'est passé. Justement, l'histoire de Lazare. Ils ont voulu tuer tout le monde. Et Lazare et Jésus. Jésus a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Et aujourd'hui, Jésus dirait, ils ont les prédicateurs et la parole. Qu'ils les écoutent. C'est exactement la même chose. Vous pouvez le calculer, je l'ai calculé. Je peux vous dire que si aujourd'hui la même situation se produisait, que les gens diraient, oui, mais si quelqu'un venait, revenez, on croirait. Ce n'est pas vrai. Ils ont les prédicateurs et ils ont la parole que nous écoutions. Moi, je crois que Dieu n'a pas terminé son œuvre. Et en préparant cette prédication, je pensais à un texte de Zacharie, vous savez, où quand il est dit que ses mains ont commencé son œuvre, et ses mains l'achèveront, les mains percées du Seigneur. Vous savez, l'œuvre de Dieu, nous on attend l'enlèvement, et je pense que l'enlèvement est très, 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 très proche. Mais Dieu va terminer son œuvre. Il a pu faire son œuvre avec Manassé. C'est pas merveilleux? Moi, je trouve que c'est merveilleux. Franchement, oui, je vais acheter le livre de Osaïe, je veux savoir ce qu'il a dit au Seigneur. Dans sa prison, Dieu aurait pu le laisser croupir. Dieu l'a relevé. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Je ne sais pas dans quel abîme ou dans quelle bénédiction, parce que peut-être que vous êtes béni. Mais n'attendez pas d'être dans la détresse pour invoquer. Vous êtes peut-être béni, vous avez peut-être un bon salaire, vous avez la santé, vous avez peut-être une belle maison. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une épouse formidable. J'en sais rien. Mais n'attendez pas d'être dans la détresse. Si vous êtes dans la bénédiction, au contraire, mettez-vous à bâtir, à utiliser votre vie, à créer des murs pour vos enfants. Vous ne voulez pas que vos enfants soient protégés? C'est ça, bâtir des murs. Seigneur de l'Église, c'est ça. On ne va pas attendre que le Seigneur soit enlevé. Après l'enlèvement, les églises seront pleines. J'ai lu plusieurs visions. Les gens ils vont venir à l'église après l'enlèvement en pensant que ça ne servira à rien. La maison de prière, c'est maintenant qu'il faut y aller. Le culte, c'est maintenant qu'il faut y aller. Oui, Manassé, il aurait pu chanter. Je pense qu'il aurait pu chanter ce matin s'il était toujours vivant. Je sais qu'il est merveilleux. Vous croyez qu'il aurait chanté? Vous croyez que le brigand, s'il était là au milieu de nous, il pourrait chanter? Oui, je sais, je le sais. Il est merveilleux. Vous pouvez le dire ce matin? En prenant le pain et le vin, oui, je sais. Tu as voulu, Seigneur, que certaines paroles soient là dans le Saint-Livre. Et je veux les prendre au sérieux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On ferme les yeux quelques instants. Qu'est-ce que vous allez lui dire dans votre cœur? Après avoir écouté la prédication, qu'allez-vous lui dire? On va prendre quelques frères. Jonathan, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien prendre quelques frères pour la Sainte Cène? Qu'allez-vous lui répondre? Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Cherchez-le, pendant qu'il se trouve. Si vous ne le trouvez pas aujourd'hui, vous ne le trouverez jamais. N'attendez pas de jours, de semaines, de mois. Vous ne savez pas dans quel état vous serez. Vous ne le savez pas. Peut-être que vous serez endurci. Comme Moïse qui a dit à Pharaon, mais jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier? Il l'a payé cher. Il l'a payé cher. C'était un roi. Il croyait que c'était lui qui était le maître. On va prier dans votre cœur. Mais vous savez, Dieu, il a regardé dans la prière, dans la prison, à Babylone. Il a vu ce pauvre roi en train de pleurer, là, peut-être de les mains dans la figure. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Je m'adresse aux chrétiens qui sont fatigués, abîmés, sans vouloir faire un jeu de mots. Chrétiens qui disent, mais moi, il faut que je me lève. Je suis paresseux. Il faut que je me relève, il faut que je bâtisse. Il faut que je sois un homme de foi, un homme de prière, une femme qui serve Dieu. Oui, Dieu peut réhabiliter n'importe qui. Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et si vous lisez notre contexte, c'est qu'ils attribuaient à Satan ce que Jésus faisait. Donc quelqu'un qui penserait que Jésus est le fils du diable, laissez-moi vous dire que là, il va avoir du mal à être pardonné. Je vais demander aux chrétiens qui peuvent chanter, je sais, oui, je le sais, je suis émerveilleux devant la création, je suis émerveilleux lorsque je vois un bouquet de fleurs champêtres, je suis émerveilleux lorsque je vois un pinson, un rouge-gorge qui chante, je suis émerveillé partout. Mais par la croix, je suis bouleversé. Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut se lever pour prendre la Sainte Cène et dire « Oui, je le sais, il est merveilleux ».